Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mon image de l'open space, c'est d'abord la collègue qui mange des sushis devant son ordinateur à midi parce qu'elle n'a pas le temps, et ensuite elle jette ses boîtes plastiques dans la poubelle et il y a une odeur de sauce soja qui flotte pendant les 3 heures qui suivent. Mais surtout, l'open space, c'est voir tout le monde, tout le temps. On peut vérifier d'un coup d'œil l'écran du collègue de gauche, il n'y a aucun échappatoire pour ne pas entendre cet autre là, parce que à chaque fois qu'il se déplace, il peut pas s'empêcher de faire une blague, un commentaire, bref, un truc qui s'entend. Et puis, au fond, dans un cube transparent avec des stores, il y a le chef, celui qui n'a pas à sentir l'odeur de la sauce soja. Avec le Covid, on a entendu beaucoup de gens annoncer la mort de l'open space. Est-ce que vivre avec ce nouveau virus, ça veut dire cloisonner les espaces de travail? Judith Chetrit s'est sérieusement penchée sur la question. Et spoiler, la fin de ces grands espaces de bureau, ça n'est pas pour tout de suite, même si l'open space évolue. Dans cet épisode, Judith Chetrit est allée visiter les locaux de Orange, où elle a rencontré Laurent Bandelier, délégué central adjoint de la CFDT de l'entreprise. Elle a aussi échangé avec Pascal Diby, ethnologue, plus précisément ethnologue du bureau, et enfin avec Olivier Cross. Il conseille les entreprises sur l'aménagement de leurs espaces de travail. Je m'appelle Marie Samelin, vous écoutez peut-être cet épisode en faisant semblant de travailler à votre poste et avec un air super sérieux, et là vous avez peut-être souri sous votre masque. Bienvenue dans Travail en cours.
Depuis plusieurs mois, si vous y retournez, la vie au bureau a un nouveau mobilier. Des signes de circulation à suivre, des flacons de gel hydroalcoolique, des masques, des affiches collées dans les ascenseurs ou sur les portes pour rappeler que cette salle est limitée à 10 personnes. Il y a des nouvelles habitudes aussi. Le mètre de distance, la désinfection des mains et des écrans, le salut du coude. Et au siège d'Orange à Paris, je n'y échappe pas quand je retrouve Laurent Bandelier. Il est délégué central adjoint de la CFDT.
Il y a eu un chamboulement depuis le début de cette année sur l'aménagement des open space, c'est qu'on a condamné des positions de travail pour que les gens ne soient plus forcément face à face à cause de la crise sanitaire, pour qu'ils ne soient plus forcément face à face ni côte à côte, de façon à respecter les distanciations sociales.
Chez Orange, il y a beaucoup d'open space. Laurent Bandelier ne sait pas exactement quelle en est la proportion parmi leurs espaces de travail, mais c'est devenu un aménagement commun depuis une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, environ un tiers des Français travaillent en open space. Et ces bureaux partagés en espace ouvert, eh bien, il faut justement les aménager autrement depuis la Covid-19 pour respecter la distanciation sociale. Il y a plus de promiscuité entre les postes et ce n'est pas évident de contrôler tous les déplacements. Alors, il y a eu des vitres en plexiglas, un renouvellement plus fréquent de l'air et de la ventilation.
Maintenant, l'impact, c'est s'il y a plein de monde sur un open space, à partir du moment où quelqu'un arrive à déclarer, à dire « bon, ben, je suis qu'à contact » ou « je l'ai attrapé », c'est tout le plateau qui est impacté. J'ai vu sur un site où j'ai l'habitude d'aller, tout un étage fermé.
Car les open space, ce sont aussi les toussotements, les éternuements des collègues. Et il n'y a aucune cloison pour nous en protéger. On partage le même air où stagnent des nuages de gouttelettes peut-être contaminées.
Le bureau, c'était un lieu un peu sale. Tout le monde était un peu sale, même les gens qui y allaient. Il y avait un problème d'hygiène réelle, générale. Il faut savoir quand même que toute la France a été équipée de salles de bain qu'en 1970. C'est-à-dire qu'on a été un des peuples les plus sales du monde pendant longtemps. Et le bureau, il en était un des endroits où on transpirait ce qu'était la société.
La personne qui me décrit cette image très peu ragoûtante des bureaux, c'est Pascal Diby, ethnologue et auteur d'une ethnologie du bureau. Alors bien sûr, depuis, les conditions d'hygiène ont énormément changé. Mais en open space, les conditions sanitaires ne sont pas toujours idéales. Déjà en 2013, une étude menée sur plus de 1800 travailleurs suédois a montré que les personnes qui travaillent en open space sont deux fois plus souvent en arrêt maladie de courte durée que celles qui travaillent dans des bureaux fermés. Une étude danoise et une étude canadienne ont eu des résultats similaires. Donc si en temps normal, on tombe plus souvent malade en open space que dans un bureau fermé, autant dire qu'avec la Covid-19, l'open space pose question.
On a pu lire dans la presse au début du mois de mai et après, ça n'a pas duré. Des articles, effectivement, qui traitaient de la question est-ce la fin de l'open space? Pourquoi venir au bureau? Pour y faire quoi? Et du coup, quelles sont les natures d'espace dont on a besoin et quelles sont les surfaces dont on a besoin?
Olivier Cross, que vous venez d'entendre, est à la tête d'une équipe qui conseille les entreprises sur l'aménagement de leurs espaces de travail chez CBRE, un groupe américain de conseil en immobilier d'entreprise. Dès qu'il m'a accueilli, il m'a tué le suspense. C'est loin d'être la mort de l'open space chez ses clients.
Régulièrement, on nous oppose quand on propose un aménagement où il y a une part d'espace ouvert plus importante que le point de départ. On nous dit, mais c'est curieux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se recloisonnent. Je n'en connais pas. Je suis spécialiste de ce domaine-là depuis des années et des années. Je ne connais aucune entreprise qui, significativement, j'entends qu'il peut y avoir toujours un endroit où une équipe a été recloisonnée parce que c'était un call center et que c'était un non-sens de ne pas l'avoir fait avant. C'est plutôt ça. Mais il n'y a aucun mouvement de fond, ni même d'une entreprise qui soit passée de l'open space à du bureau cloisonné. Donc, c'est un mythe urbain de penser qu'il va y avoir un recloisonnement dans une logique de balancier.
Quand j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai rapidement compris que la période actuelle était loin d'être le premier procès de l'open space. Un moment où on décortique sa valeur ajoutée, mais surtout ses nuisances. Pour Pascal Dibi, la question de l'open space est un serpent de mer du bureau. Ça n'arrête pas de venir et de repartir comme questionnement sur la manière de travailler.
C'est cyclique un petit peu le rapport comme ça avec un désir de rassembler les gens dans un espace commun et puis après un éclatement dans des espaces individuels et puis on revient un siècle plus tard à la question. Et en fait, ça a toujours été comme ça, un truc qui arrive, qui repart, etc.
Pascal Dibi date les premiers open space au Moyen-Âge, avec les scriptoriums. Ces salles dans les abbayes où des moines copiaient manuellement et illustraient côte à côte des livres avant l'invention de l'imprimerie. Plus tard, on voit d'autres exemples apparaître qui naissent de la volonté des chefs de surveiller leurs équipes.
Il faut savoir que le Louvre a brûlé dans les années 1760 et que la question a été de reconstruire justement les bureaux qui étaient à l'intérieur de Louvre, qui étaient essentiellement le ministère des Finances. Et en fait, on l'a fait à l'imitation du système panoptique anglais, avec cette idée bien archaïque qu'il faut absolument qu'on contrôle et surtout qu'on surveille les gens qui viennent au bureau. Et donc, on a proposé un open space à l'anglaise. Ça a été très, très mal vécu. Et puis, la question s'est reposée une seconde fois en 1871. Cette fois-ci, ça a été la Commune. À nouveau, le Louvre a brûlé, les Tuileries ont brûlé. Et on a à nouveau reconstitué. Et là, il y a une levée de boucliers pour ne pas accepter les open space, chacun voulant son bureau. On a recommencé à construire des bureaux avec cloisons à l'intérieur du Louvre, par exemple. Donc, il faut savoir que c'est cyclique, cette demande-là. Elle est à la fois... Alors, ça ne vient pas de la part des gens, ça vient de la part des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Et en fait, on fait des lieux où on peut surveiller le plus de gens.
Ce qui va contribuer au développement de l'open space, c'est surtout l'organisation plus scientifique, plus rentable de l'espace de travail dans le secteur tertiaire, avec quelques grandes compagnies américaines d'assurance qui ouvrent la voie à des bureaux ouverts avec de basses cloisons entre eux pour mieux coordonner le travail sur des dossiers.
La Lloyd a eu une importance considérable, effectivement, pour la mise en place d'un système de rentabilité administrative, d'une certaine façon. Les assurances demandent une paperasserie importante. Le fait que, par exemple, à Chicago ou à New York, l'espace ait commencé à manquer, on a commencé à monter des gratte-ciel pour la réalité. Et cette fois-ci, on a commencé à rationaliser absolument la production administrative. Et les assurances sont les premières à avoir voulu aller le plus vite possible. Évidemment, une assurance, c'est un cas de sinistre, donc il faut le régler assez rapidement. Et là, je pense que l'open space a tout son sens, au sens dans la mesure où... les gens doivent communiquer entre eux, passer d'un bordereau à un autre. Donc, on n'a pas encore de système informatique comme on a des ordinateurs aujourd'hui. Et là, ça a été vraiment, on le dit d'ailleurs, c'est la taylorisation de la production administrative, enfin, production en tout cas de bureaux. Et là, quelque chose se met vraiment en place qui va déteindre sur l'ensemble des systèmes de gestion, quoi.
La diffusion des open space va continuer à se faire par cycle tout au long du XXe siècle. C'est aussi ce que me raconte Olivier Cross.
Assez paradoxalement, si vous regardez des images du monde bancaire ou d'autres mêmes entreprises dans les années 30, entre deux guerres, vous avez beaucoup d'open space. À partir des années 50 et 60, surtout, il y a eu le développement du statut de cadre en France, en particulier, mais aussi en Allemagne, etc. Et donc, sont arrivées des hiérarchies intermédiaires en nombre qu'il a fallu récompenser, structurer. Et donc, dans les années 60-70, on est arrivé vers des espaces qui étaient beaucoup plus cloisonnés, finalement, qu'ils ne pouvaient l'être avant la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà un premier paradoxe dont on n'a pas forcément conscience. Et c'était d'ailleurs, probablement, la bonne réponse aux besoins du moment. Parce qu'à ce moment-là, le travail est essentiellement individuel, prévisible, nécessité de la concentration. Et donc, finalement, le bureau individuel ou le bureau partagé, c'est le meilleur format spatial pour répondre à cette demande-là. En plus, sans forcément de pression économique très, très forte pendant ces années-là, pour les pays occidentaux en tous les cas. Et puis, le monde a évolué, mais pas forcément l'espace. Donc, on a commencé à avoir une distorsion très forte entre le travail qui évoluait, de plus en plus imprévisible, de plus en plus collaboratif, alors qu'on restait dans des espaces individuels qui ne répondaient plus du coup à ce qu'étaient les journées de travail des différentes personnes. Donc, en plus des espaces individuels, il fallait rajouter énormément d'espaces collaboratifs avec l'impossibilité à le faire pour des raisons économiques, donc une pénurie d'espaces collaboratifs. Donc, il a fallu simplement, c'est ce qui se passe depuis 10-15 ans, rééquilibrer tout ça pour fournir des espaces qui répondent à ce que sont les journées des collaborateurs.
Par contre, derrière l'open space, il ne faut pas voir la promesse d'une meilleure communication entre les collaborateurs. Olivier Crost insiste beaucoup dessus.
L'autre légende urbaine, c'est les open space ont été créés pour faciliter la communication. Non. Les open space ont été créés pour faciliter les réorganisations, la fluidité des équipes, pour se rencontrer, etc. Mais ce n'est pas la communication en one-to-one avec des collègues qui font partie de l'équipe, parce que ça, de toute façon, ça fonctionne en bureau partagé. Ça ne fonctionne pas, évidemment, quand on est dans une succession de bureaux individuels. Les open space n'ont pas été créés, c'est un contresens de penser qu'ils ont été créés pour générer de la communication accrue au sein des équipes.
Surtout parce qu'en fait, l'open space, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne favorise pas toujours la conversation directe entre les personnes. En 2019, deux professeurs de l'université d'Harvard comparent, à partir de microphones posés sur les tables, le niveau d'interaction au sein d'une même équipe. Celle-ci vient de quitter ses bureaux privés individuels pour un open space. Leur discussion en face à face baisse de 67%. Ils préfèrent désormais s'envoyer plus de mails. Parce qu'en France, il y a en moyenne 8 à 10 personnes dans les open space et elles font du bruit, ce qui parasite parfois la concentration de leurs collègues. Laurent Bandelier.
Le travail en open space a développé certains comportements. Les gens qui veulent s'isoler pour pouvoir travailler, pour se concentrer, mettent un casque, écoutent de la musique éventuellement. L'autre aspect, c'est sur tout ce qui est conversation, conférence téléphonique. D'une manière, on va dire, correcte, les gens évitent de tourner sur une conférence téléphonique avec un haut-parleur ouvert. C'est arrivé, c'est tout de suite gênant. Et ça c'est, y a des choses qui ont été sorties d'ailleurs sur les plateaux, des espèces de petites lampes qui sont posées régulièrement. Si on fait trop de bruit, ça passe au jaune puis au rouge. Et quand c'est au vert, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de bruit, donc on respecte les autres.
C'est pourquoi le type d'espace de travail compte quand on mesure les critères de la qualité de vie au travail. D'après un baromètre Actineo publié en 2019, ceux qui travaillent dans un bureau individuel fermé se disent plus satisfaits que ceux qui se trouvent dans un espace ouvert avec plus de 10 personnes. Donc si l'open space nuit à la concentration, mais aussi à la communication, et qu'en plus, on est plus susceptible d'y tomber malade, alors pourquoi est-ce que cette organisation du travail, avec renfort de plexiglas, survit ? Parce que l'argent.
Un autre argument qui est avancé pour les open space, c'est le gain financier potentiel par rapport à des espaces qui seraient significativement plus cloisonnés. C'est en partie vrai, puisque quand on regarde l'architecture d'un immeuble, finalement, l'open space permet d'aller conquérir la circulation comme étant un espace quasiment de... non pas de travail, mais c'est en partie le cas quand même, permet d'avoir un mètre carré finalement plus efficient grâce à l'open space.
Et l'open space permet de gagner de l'argent, non seulement en économisant des mètres carrés, mais parce que par la suite, cela voudra dire que même si on doit réorganiser des équipes, comme il n'y a pas de cloison à abattre ou à remettre sur pied, on va aussi faire des économies.
Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, puisque quand on est en open space et en flex office, on a besoin de faire relativement peu de réaménagement à chaque fois qu'il y a une réorganisation, là, sur la durée de vie d'un immeuble, on y gagne assez significativement.
Parce que pour Olivier Cross, l'open space, c'est la promesse de la réactivité.
Quand on dit que l'open space facilite l'agilité, c'est entre autres parce que ça évite d'interroger trop significativement toute la technique de l'immeuble quand on décide de réorganiser des équipes. C'est-à-dire qu'une cloison, quand vous maintenez un immeuble, c'est un problème. C'est-à-dire si une équipe grandit et qu'il y a des cloisons, ça devient un problème parce qu'il faut déplacer les cloisons, c'est coûteux, voire ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Dire que telle équipe fait 10 personnes aujourd'hui, dès lundi matin, par une note de service, elle en fait 12 et on ne change rien à l'espace. Que telle équipe se déplace et va désormais travailler à côté de telle autre équipe et on ne réorganise pas massivement l'espace. Bien sûr, il faut faire des adaptations, mais à la marge. Voilà. Donc, quand on dit que l'open space permet l'agilité, c'est l'agilité liée au fait que les organisations, maintenant, sont extrêmement mouvantes. Avant, on changeait d'organisation... Alors, avant, on changeait d'organisation tous les 5 ans. Après, tous les 3 ans, et maintenant, on a des entreprises qui changent d'organisation tous les 6 mois, quasiment. C'est-à-dire qu'ils passent d'une organisation matricielle par produit à une organisation où la dominante, c'est plutôt la géographie, et ainsi de suite, après l'expertise, et ainsi de suite.
L'enjeu économique pour les entreprises est énorme, car elles ne sont pas toujours propriétaires de leurs locaux, et que l'immobilier est leur deuxième poste de dépense.
Maintenant, depuis plusieurs années, ce qui est déployé, c'est ce qu'on appelle l'activity-based workplace, en très bon français. Hein. Donc, organisation de l'espace par activité. Donc, c'est certes des postes de travail en espace ouvert, mais qui sont complétés par énormément d'espaces support pour téléphoner, pour se concentrer, pour se réunir de manière formelle ou informelle, pour se détendre, pour de la rêverie, pour des services donnés aux utilisateurs, etc. C'est beaucoup plus large que simplement le fait d'être dans un champ de bureau ouvert. Si on regarde les entreprises de grande taille, allez, on va être au-delà de 100 ou 250 personnes, là, globalement, on peut dire que quasiment tous les projets, en tous les cas, tous les nouveaux projets, sont très majoritairement en open space. Et quand je dis très majoritairement en open space, c'est 90-95% des postes de travail sont en espace ouvert. Et sur tous les projets que l'on lance depuis 3-4 ans, il y a toujours une part de flex office.
Pour survivre, l'open space s'adapte. Toujours dans une logique de réduction des coûts de l'immobilier. Et la dernière adaptation en date de l'open space, c'est le flex office. Le flex office, c'est partir du constat qu'il y a tous les jours des postes qui ne sont pas occupés. Parce que les gens sont malades, en congé, en télétravail ou chez des clients. Concrètement, avec le flex office, il n'y a plus de bureau attitré. Les gens tournent sur les postes en fonction des disponibilités. Et avec cette organisation, il y a souvent moins de places de bureau que de salariés. Le syndicaliste Laurent Bandelier suit très attentivement ce dossier chez Orange depuis quelques années.
Le flex office a commencé à apparaître chez Orange essentiellement sur deux grands projets. Le premier, qui est un projet emblématique, Lyon 2020, de nouveaux locaux, d'un nouveau campus sur Lyon, proche de la Part-Dieu, où là, on a commencé donc à découvrir des aménagements flex office. Et l'autre gros projet, ça a été la reprise de locaux sur la Défense, un endroit qui s'appelle Cœur Défense, pour les services communication entreprise, où on a commencé à aménager des locaux en flex office. C'est-à-dire où les endroits où les salariés n'avaient plus de position de travail attribuée. Maintenant, derrière, il y a eu des cas, alors j'espère que ça s'est amélioré depuis, parce que j'ai pas eu de retour, mais sur Cœur Défense, par exemple, il y a des collègues qui sont arrivés le matin, il n'y avait plus assez de place disponible. D'autre part, aujourd'hui, le flex office provoque des comportements où les gens vont réserver des salles de réunion, puisque on a des systèmes de réservation de salles de réunion informatisés, vont réserver des salles de réunion de façon à pouvoir se réunir et travailler la journée en équipe. Pas forcément pour tenir une réunion. Et dans certains locaux, il y a des règles qui avaient été établies. Ok, tu prends une salle de réunion pour 2 heures, et ben pendant ce temps-là, la position sur laquelle tu étais, tu dois tout virer, et cette position devient disponible pendant 2 heures, cette position de travail. Ce qui fait que quand on sort de salle de réunion, si toutes les positions sont occupées, on ne sait plus où se mettre.
Pour lui, le flex office, c'est sans doute la métamorphose lente du bureau qui va être accélérée par la Covid-19 et le fait que des salariés en télétravail ne viennent plus que 2 à 3 fois par semaine au bureau.
Maintenant, ne pas avoir forcément un endroit attribué, il y a des tas de métiers qui en ont l'habitude. Les vendeurs en boutique n'ont pas un bureau attribué, par exemple. Tout ce qui est commercial, ce qu'on appelle les salariés nomades, sont habitués depuis très longtemps à pas forcément avoir une position de travail personnalisée. Ceci dit, c'est loin d'être la majorité des salariés de l'entreprise. Il y a une tentation de faire accélérer le flex-office à travers le Covid-19, clairement. Clairement, puisqu'on a réussi à placer, je vois pour Orange, on a plus de 60 000 personnes en télétravail en l'espace d'une semaine, voire peut-être une semaine et demie. On s'est aperçu donc qu'on était capable de mettre des gens hors nos locaux. Maintenant, les gens qui sont en flex-office, il y a des choses, ça pourra pas fonctionner. Il y a des équipes qui ont vraiment des spécificités métiers. Je vois entre autres les gens qui travaillent sur tout ce qui est transactions boursières au sein de l'entreprise, les acquisitions qu'on va faire. On peut pas se permettre de travailler en open space ou en flex office. Les données sont trop confidentielles. Et les gens qui travaillent des contrats fournisseurs, c'est pareil, il y a des notions de confidentialité qui doivent être maintenues. Donc tout ça, il y a des métiers qui sont vraiment pas adaptés à cet aspect flex office. Tous mes collègues qui travaillent dans la cybersécurité, c'est pas forcément adapté. L'aménagement flex office aujourd'hui, il est quand même fait de façon plutôt maligne, on va dire. Il y a ce qu'on appelle des clusters. Alors c'est pas des clusters Covid. Cluster, c'est un vieux terme de géographie. Hein. C'est une zone dans laquelle tout le monde fait à peu près la même chose, hein, comme un quartier d'affaires ou un quartier commerçant. Donc on a les clusters dans les locaux qui sont quand même réservés par rapport à une direction.
En 2019, 14% des actifs auraient déjà goûté au flex office, surtout dans des grandes entreprises comme la BNP, Accenture, Danone, Sanofi ou très récemment PSA. Chez CBRE, l'entreprise où travaille Olivier Cross, c'est aussi le cas depuis 2 ans, à l'exception du PDG et de ses 2 assistantes.
Le taux d'occupation d'avant, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est qu'ici, on est à un taux de flex relativement, d'ailleurs, pas si agressif que ça. On doit être à 0,8 postes de travail par collaborateur. On est, je crois, sur le siège social ici, 650 personnes pour à peu près 540 positions de travail. Et ça fonctionne très, très, très bien. Il y a parfois des grippages sur certains étages parce qu'on s'est trompé dans le niveau de taux de présence et les pics de fréquentation, mais ça, l'avantage du flex, c'est qu'on le réajuste extrêmement facilement. Il suffit de dire que le quartier de telle équipe va de tel à tel endroit et finalement, on redonne la souplesse nécessaire.
Et pour lui, c'est rentable si c'est implanté dans des open space et à condition d'avoir bien discuté des règles avant avec les salariés et entre les équipes.
Le principe de base du flex office, c'est l'autorégulation. On n'en réserve pas son espace avant de venir. On se base sur les statistiques de présence en général, le nombre de bureaux offerts et des ratios qui font que, sans plus d'organisation que ça, ça fonctionne. Et pour que cet équilibre fonctionne et qu'on puisse aller vers vraiment une révolution des espaces de travail, vers de la réservation beaucoup plus significative et donc du coup vers de l'hôtelisation, c'est-à-dire un fonctionnement vraiment sur réservation, y compris dans les espaces ouverts, probablement avec beaucoup de services, beaucoup d'animation sur site.
En 2009, le siège Alcatel-Lucent de Vélizy était passé en flex office, un pionnier. Et 4 ans plus tard, Stéphane Dublaine, élu CGT du site qui a fermé depuis, écrivait dans les colonnes du Monde que les flex office ont été très mal vécus. Pour lui, le flex office est, je le cite, « ressenti comme une économie de bout de chandelle réalisée sur le dos des salariés ». Cela peut aussi virer au jeu des chaises musicales, où c'est la course aux réservations, aux places que l'on garde pour les collègues et amis, et au surbooking stressant. Plus largement, en 2017, selon un sondage d'Opinionway, beaucoup de Français disent ne jamais avoir entendu parler de ce modèle. Et 2/3 d'entre eux y seraient défavorables si l'idée leur était soumise au travail. Chez Orange, selon la CFDT, le flex office est un choix qui pourrait être fait sur 20 d'autres projets immobiliers en cours.
Vous venez d'écouter Travail en cours. Judith Chetrit a réalisé cet épisode sur les open space. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Louise Emerlet est chargée de production. La musique est de Jean Thévenin et Cyril Marchand est à la réalisation. Le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Injustice. À bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.